Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le coronavirus s'est propagé dans les bidonvilles de Bombay. Plus de la moitié des habitants auraient été contaminés, nous expliquera notre correspondant en Inde. Nous irons ensuite au Caire, en Égypte, aux côtés du SAMU Social International. L'ONG vient en aide aux enfants des rues, encore plus fragiles depuis la pandémie.
Accusés d'abus de position dominante, les patrons des GAFA, les géants de la tech, étaient entendus hier par le Congrès américain. Un rendez-vous chargé politiquement à l'approche de l'élection présidentielle.
L'État français devrait annoncer 600 millions d'euros pour soutenir les régions qui ont subi des pertes liées à l'épidémie de Covid-19. Une information du service politique de France Culture.
Les soignants à domicile indépendants semblent avoir été oubliés. Ils aimeraient toucher la prime de 1500 euros attribuée à ceux en première ligne au plus fort de la crise sanitaire.
Les chasseurs déplorent la possible disparition d'une tradition française. Le gouvernement veut interdire la chasse à la glu à l'automne prochain. Une vieille technique pour piéger des oiseaux. Les nombres sont impressionnants. Plus de la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay auraient attrapé le nouveau coronavirus. Il circulerait beaucoup plus dans la capitale économique indienne que ce qu'on pouvait croire jusqu'à présent. Dans la ville, plus de 100 000 cas ont été recensés et la plupart des malades résistent bien. Explication de Sébastien Farcy.
Près de 7000 personnes ont été testées à Bombay pour savoir si elles ont développé des anticorps contre le Covid-19 et donc si elles ont été infectées. Et les résultats sont étonnants. 16% des résidents en appartement ordinaire ont été contaminés et 57% de ceux en bidonville. Si on extrapole ces chiffres, cela indiquerait qu'environ un tiers de la population de Bombay a été infectée. Dans les bidonvilles où ses habitants partagent souvent des toilettes ou des logements exigus, le virus a circulé bien plus rapidement, mais on n'y a pas constaté d'hécatombe, ce qui veut dire que ces populations pauvres ont particulièrement bien résisté au Covid-19, comme l'explique Oulas Koltour Sitaram, le biologiste au centre de recherche TIFR qui a dirigé cette étude.
Le taux de mortalité est bien plus bas dans les bidonvilles que dans les autres quartiers. Cela peut être dû au fait qu'ils sont déjà exposés à beaucoup de maladies et ont développé une meilleure immunité, ou au fait que c'est une population un peu plus jeune. Ou enfin, c'est possible qu'ils souffrent de moins de maladies. En tout cas, il est clair qu'ils ont été plus robustes.
Une étude similaire menée à New Delhi a montré que 25% des habitants de la capitale y ont été contaminés. Ce n'est peut-être pas assez pour constituer une immunité, mais il est certain que les nouvelles infections ont baissé depuis quelques semaines dans ces deux mégapoles.
La correspondance de Sébastien Farcy en Inde. La pandémie de coronavirus frappe toutes les classes sociales, mais aggrave les inégalités déjà bien installées. Dans le premier pays du continent africain touché par la Covid-19, à savoir l'Égypte, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, dont de nombreux enfants des rues. Ils étaient environ 1 million dans les années 2000, d'après l'UNICEF, 16 000 dans la capitale, selon les autorités. Au Caire, une ONG française, le SAMU Social International, leur vient en aide. Martin Roux a suivi une maraude.
Partout, le van du SAMU Social International s'arrête. Des dizaines d'enfants accourent. Tous survivent de mendicité et de petits boulots. Parmi eux, il y a Reda, 14 ans, obligé de travailler depuis l'âge de 8 ans. Depuis le début de la pandémie de coronavirus et l'instauration entre mars et juin d'un couvre-feu, ses maigres revenus ont été divisés par 5.
C'est dur de travailler en ce moment. En temps normal, je gagne autour de 150 livres par jour. Mais pendant le couvre-feu, je gagnais 30 livres. La moitié pour manger et l'autre moitié pour mes économies.
30 livres égyptiennes, c'est l'équivalent de 1,50€ par jour. Impossible avec cela de se protéger contre le virus. Marwa, 17 ans, compte sur l'aide du SAMU Social International.
J'ai peur, beaucoup de gens sont morts. Le SAMU Social nous donne des masques et du savon. Je leur dois tout. Ça fait 9 ans que je les connais. Quand je les vois, je cours vers eux.
Pour Lucie Lamey, travailleuse sociale, il s'agit aussi de maintenir le contact avec ses enfants au moment où ils sont un peu plus marginalisés.
Particulièrement dans cette période, à cause du coronavirus, les gens ont peur d'avoir le moindre contact avec eux.
Le Premier ministre égyptien a prévenu hier, si le nombre de contaminations repart à la hausse, le couvre-feu sera de nouveau instauré. Cela replongerait ses enfants dans une plus grande détresse.
Les enfants luttent aussi pour leur survie au Liban à cause de la crise sanitaire. D'après l'ONG Save the Children, plus de 500 000 enfants à Beyrouth peinent désormais à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, à commencer par la nourriture. Le coronavirus a fait plus de 90 000 morts au Brésil depuis le début de la pandémie, plus de 150 000 aux États-Unis. Les États-Unis qui franchissent un cap macabre. Le rythme à venir de l'économie américaine est extraordinairement incertain, selon les mots du président de la Banque centrale américaine. Il a appelé hier soir à des actions à tous les niveaux pour apporter l'aide nécessaire à une véritable reprise. Il s'inquiète de la crise sanitaire qui commence à peser sur l'activité économique. Elle est désormais étroitement liée à l'évolution du virus. Ces quatre géants de la tech ne sont sûrement pas les plus à plaindre en termes de santé économique. Les patrons des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, étaient entendus hier par des élus du Congrès américain. Les quatre hommes parmi les plus riches et puissants de la planète sont soupçonnés d'abus de position dominante et leur convocation était le point d'orgue d'une enquête parlementaire entamée il y a plus d'un an aux États-Unis, le compte-rendu de Loïc Loury.
Avec 5 000 milliards de dollars de valorisation cumulée, les GAFA, c'est difficilement contestable, n'ont que peu de concurrence. David Cicilline, le démocrate qui présidait cette audition exceptionnelle, l'a souligné d'entrée. Leur capacité à dicter leurs conditions, à prendre l'initiative, à renverser des secteurs entiers et à inspirer la peur, ce sont les pouvoirs d'un gouvernement. Hégémonie publicitaire pour Facebook et Google, Amazon et Apple accusés d'être juges et parties sur leurs plateformes respectives, les griefs étaient nombreux et cette audition bien courte, d'autant plus que les arguments de ces grands patrons sont très calibrés à l'image de Mark Zuckerberg pour Facebook rompu à l'exercice. L'histoire montre que si nous arrêtons d'innover, chaque compagnie présente ici sera remplacée et les plus importantes compagnies du genre, il y a 10 ans, elles étaient presque toutes américaines. Aujourd'hui, près de la moitié sont chinoises. Les débats, toutefois, ont rapidement pris un tour politique, côté républicain où l'on accuse plusieurs de ces sites d'être pro-démocrate. Avec parfois des arguments farfelus, ici le représentant Greg Stubb. L'un de mes partisans, la semaine dernière, m'a appelé pour me dire « Hey, je veux que tu saches que du jour au lendemain, mon compte Google a envoyé tes mails de campagne que je reçois normalement depuis presque 10 ans dans la corbeille ou dans les spams. » Donald Trump, lui, y est allé de son tweet « Si le Congrès ne force pas les Big Tech à être équitable, menace-t-il, je le ferai moi-même avec des décrets. »
Le pouvoir malien avait tendu la main à l'opposition dans l'espoir de former un gouvernement d'union nationale conformément aux recommandations des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est non. Les opposants ont encore réclamé hier soir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et du premier ministre Boubou Cissé. Ils respectent jusqu'ici une trêve, mais dès la semaine prochaine, ils lanceront une deuxième phase de désobéissance civile. La crise politique secoue le Mali depuis le mois dernier. Ce sont les premiers à être arrêtés à Hong Kong depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. 4 étudiants ont été emmenés hier. Ils étaient impliqués dans un groupe indépendantiste d'après la police. La loi imposée par le régime communiste de Pékin est très critiquée par le camp pro-démocratie. Elle sanctionne la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, les députés ont voté l'article 1er du projet de loi bioéthique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
La procréation médicalement assistée est pour l'instant réservée aux couples hétérosexuels. Son ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'article a été soutenu par la majorité et la gauche. L'acte sera remboursé par la Sécurité sociale. En revanche, les députés ont à nouveau rejeté en deuxième lecture la PMA post-mortem avec les gamètes d'un conjoint décédé et l'ouverture de la PMA aux hommes trans. Le gouvernement sollicité par les régions va mettre la main au portefeuille. Selon nos informations, l'État va injecter 600 millions d'euros pour aider les régions à compenser leurs pertes liées à l'épidémie de coronavirus. Jean Castex, le Premier ministre, doit signer ce matin à Matignon un accord de partenariat avec Régions de France et son président, les Républicains, Renaud Muselier. Les détails avec Rosalie Lafarge.
Au plus fort de la crise sanitaire, les collectivités ont acheté des masques, débloqué des crédits pour les entreprises, fait face à des pertes de recettes liées au ralentissement économique. On a perdu plus d'1 milliard d'euros pour 2020, assure le président de Régions de France, Renaud Muselier, avant de mettre en garde dès la mi-mai. Si nous n'avons pas la capacité de relancer la machine, il n'y aura pas de relance possible par les régions. Message entendu par Matignon et son nouvel occupant Jean Castex. 3 semaines après avoir reçu Renaud Muselier rue de Varennes, il l'attend de nouveau ce matin pour passer des mots aux actes avec la signature de ce contrat d'engagement, dit-on dans l'entourage du Premier ministre. Engagement à double sens, l'État devrait donc débloquer 600 millions d'euros pour 2020 pour compenser les pertes. En échange, les régions signent pour assurer la relance. Dès que l'État mettra 1 euro pour financer des investissements, les régions mettront, elles aussi, 1 euro, précise-t-on au cabinet de Jean Castex. C'est une première marque de confiance du gouvernement, souligne Renaud Muselier. C'est surtout la confirmation d'un changement de méthode à Matignon, relève un autre président de région. Édouard Philippe ne voulait pas nous donner un centime. Là, on décroche 600 millions. Finalement, à bon d'un élu, on passe d'un Premier ministre qui nous avait dans le nez à un Premier ministre qui a du nez. Et franchement, ça peut tout changer.
Les soignants à domicile aimeraient aussi obtenir un coup de pouce financier. Ils ont maintenu leur visite malgré le confinement, mais tous ne toucheront pas la prime d'un montant maximum de 1500 euros pour avoir été en première ligne de l'épidémie. Elle devrait être décernée aux auxiliaires de vie envoyés par l'assurance maladie ou les départements, pas aux indépendants, Maxime Fayolle.
Jean-Pierre Ramos est auxiliaire de vie depuis une quinzaine d'années, rémunéré par le CESU, le chèque emploi-service. Il n'a pas beaucoup espéré lorsqu'il a entendu que les soignants obtiendraient une prime après le confinement.
Moi j'ai l'impression toujours d'être comme dans un théâtre, dans le backstage, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille à domicile, on n'est pas exposé comme les gens dans les hôpitaux ou certaines associations. Donc moi en tant que employé chez les particuliers dans le cadre du CESU, je ne croyais pas que je serais vraiment concerné, avec un petit espoir, puisque bon, c'était annoncé qu'on aurait tous peut-être une petite aide. Ceci dit, les personnes m'ont demandé. Après, j'ai laissé chacun le libre choix de m'attribuer une prime s'il le souhaitait.
Une disparité entre soignants qui agace les associations d'aide à la personne comme l'ADMR. La crise doit pourtant aider à remettre ces métiers dans la lumière, explique son secrétaire général Thierry Daboville.
Les Français ont découvert ce secteur à l'occasion de cette crise, car ces aides à domicile, ces auxiliaires de vie sociale n'avaient pas été là, c'est l'ensemble du système de santé français qui se serait écroulé. Cette visibilité, elle a été extrêmement forte. Et par contre, elle doit se traduire par une reconnaissance financière. Mais le vrai sujet, c'est la question de la revalorisation de ce personnel, qui soit à la hauteur de ce que ces salariés peuvent espérer.
Une question qui devrait être longuement discutée lors du projet de loi Grand Âge et Autonomie. Il est prévu pour la fin d'année.
Un homme soupçonné d'avoir tué son épouse mardi soir près de Lyon est en garde à vue. Il avait interdiction de l'approcher et devait être jugé pour violence en octobre. Au moins 40 féminicides présumés ont été recensés depuis le début de l'année. Devenue un symbole des violences conjugales, Jacqueline Sauvage est morte hier à 72 ans. Elle avait été d'abord condamnée pour le meurtre de son mari, tué de 3 balles dans le dos, puis graciée en 2016 par l'ex-président de la République, François Hollande. La France est l'un des derniers pays d'Europe à autoriser la chasse à la glu, une méthode qui consiste à coller un oiseau à une branche pour que son cri en attire d'autres et ainsi les piéger. Cette pratique pourrait être interdite dès l'automne prochain. C'est en tout cas ce que souhaite la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Évidemment, l'annonce n'a pas plu aux chasseurs, Cosima Mézidi Alem.
30 à 40 000 oiseaux chassés par an. En France, 5 départements autorisent encore la pratique de la chasse à la glu. Le Var, les Alpes-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse. La ministre de la Transition écologique, elle, veut y mettre fin. Une décision critiquée par la Fédération nationale des chasseurs. Pour son président Willy Schran, la chasse à la glu est une tradition parfaitement légale.
Ça n'a aucune incidence sur la biodiversité. Il faut savoir également que c'est une chasse qui n'est pas létale, c'est-à-dire qui ne tue pas. L'oiseau se colle, on arrive, on le décolle avec un produit pour dissoudre un petit peu cette glu. On le garde en cage et à la fin de la saison, ces oiseaux sont relâchés. C'est tellement quelque chose de simple. C'est un héritage. On parle de tradition, aucun problème pour la biodiversité. Donc à partir de là, je serais tenté de dire, mais pourquoi l'Europe nous emmerde comme ça?
Si la France veut interdire la chasse à la glu, c'est parce qu'elle a été rappelée à l'ordre par la Commission européenne. Le pays a jusqu'à octobre pour arrêter cette pratique. Alain Bougrain-Dubourg est le président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Il a fallu que l'Europe montre qu'on était des mauvais élèves, qu'on faisait tort à la biodiversité pour qu'enfin on s'exécute et qu'on en finisse avec ces pratiques d'un autre temps.
Si la France n'arrête pas la chasse à la glu, elle risquerait des sanctions économiques de la part de l'Union européenne.
Cosima Mézidi Alem. L'usage de l'eau est restreint par endroits en Bourgogne-Franche-Comté à cause de la sécheresse dans le territoire de Belfort, en Saône-et-Loire, Côte d'Or, dans l'Yonne, le Doubs et la Haute-Saône. La météo de ce 30 juillet s'annonce très chaude et ensoleillée. Un pic de chaleur traverse la France. Comptez cet après-midi 29 degrés à Brest, 32 à Strasbourg, 33 à Paris, 38 à Lyon, 39 à Bordeaux et 40 degrés à Mont-de-Marsan, Chloé.
Merci Margot Delpierre. Dans quelques minutes, nous retrouvons nos deux invités pour poursuivre notre discussion sur la police, la possibilité ou non de la réformer. À 8h30, le coup de fil culture de Jean-Christophe Brianchon. Puis nous serons avec Emma Lavigne, présidente du Palais de Tokyo à Paris et commissaire de l'exposition Le ciel comme atelier, Yves Klein et ses contemporains, en ce moment au centre Pompidou-Metz. Tout cela après notre rendez-vous avec Libération.